Il est 23h30 à Paris, minuit et demi à Kiev, 22h30 dans Universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Le 24 février 2022, début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 3 ans de guerre qui ont contraint de nombreux Ukrainiens, mais aussi beaucoup d'Africains installés dans le pays à l'exil. Témoignage à suivre. Lui ne s'était pas exprimé depuis le début du conflit dans l'est de son pays. Ce dimanche, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, est sorti de son silence via une tribune dans le Sunday Times, un journal sud-africain. Et puis au Nigeria, le Sénat examine ce lundi le projet de réforme fiscale du président Bola Tinubu. Une étape importante en vue de l'adoption de cette réforme ambitieuse qui a suscité beaucoup de résistance. Lundi 24 février 2024, cela fera 3 ans, jour pour jour, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé. Une guerre qui a contraint de nombreux Ukrainiens et beaucoup d'étrangers, notamment africains, à quitter le pays. C'est ce qu'a vécu Tatiana, une jeune Ivoirienne arrivée en Ukraine 1 an avant le début du conflit. Étudiante à Kiev, elle a dû quitter la capitale en urgence lorsque les bombardements ont commencé. De la gare de Kiev aux frontières européennes, son parcours a été semé d'embûches. Elle raconte son exode.
Ça se sentait à Kiev la guerre parce que tout le monde cherchait à se mettre à l'abri. On voyait les chars, on voyait les avions de guerre passer. Mais j'ai plus entendu les bombardements lorsque j'étais dans le train pour Lviv. Il y a le train qui s'arrêtait vu qu'il y avait des bombardements dans les villes d'à côté. Au métro de Kiev, ça ne se passait pas bien parce que c'était les Ukrainiens d'abord. Parce qu'il fallait comprendre la langue, tout et tout. Il fallait vraiment se débattre. On était dessus parce qu'on se disait, on est tous humains. Les bombes, elles ne trient pas, en fait. Et on a lutté. On est rentré de force dans le train. Et voilà, après, je suis retrouvée en Pologne. De la Pologne, je suis venue en France, vu que j'avais de la famille en France. On a été confrontés au problème du fait qu'il n'y avait pas de guerre dans nos pays. On a traversé des galères. Arrivé en France, on ne savait pas où mettre la tête. Franchement, on se dit que cette guerre, elle n'avait pas nécessité d'être parce que c'est des pètes en vie humaine qui n'ont rien demandé. Voilà, que si ça pouvait cesser, c'était bien.
Voilà, 3 ans de guerre en Ukraine. On y revient très largement ce lundi sur nos antennes. Édition spéciale lundi à partir de 6h10 temps universel. Témoignages, reportages, analyses, décryptages à retrouver tout au long de la journée sur les antennes de RFI et sur les environnements numériques de notre chaîne. C'est une prise de parole publique qui marque son retour dans le jeu politique congolais. Ce dimanche, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, signe une tribune dans le Sunday Times, un journal sud-africain. Depuis son départ de la présidence en 2019, l'ancien chef de l'État installé en Afrique australe ne s'était pas exprimé publiquement. Le reste, c'est Coralie Pierret qui raconte.
Pour l'ancien président Joseph Kabila, la solution pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC n'est pas militaire. Ni l'envoi de troupes ou d'équipements supplémentaires en soutien à l'armée congolaise ne pourront résoudre la crise. Un signal fort envoyé au président sud-africain pour qu'il clarifie sa position, décrypte à RFI un proche de Joseph Kabila. Sous l'impulsion de Cyril Ramaphosa, l'organisme régional SADC avait envoyé l'année dernière des troupes en RDC avec un mandat offensif pour empêcher le M23 soutenu par le Rwanda de poursuivre sa progression. Des troupes qui sont encore aujourd'hui à Goma, l'une des principales villes de l'est de la RDC où le M23 s'est installé fin janvier. Pour Joseph Kabila, les racines de la crise sont à la fois politiques, sociales et institutionnelles. Une crise qui trouve son origine dans la rupture du processus politique en 2021, quand le clan Kabila s'est vu exclu des instances de pouvoir par l'actuel président Félix Tshisekedi. Avec cette tribune, l'ancien chef de l'État signe son retour sur la scène politique avec des revendications, explique un proche. Revendications qui ne sont pas encore clairement explicites. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et cette tribune de Joseph Kabila intervient alors que la gestion des déplacés internes devient de plus en plus difficile. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire, environ 700 000 personnes ont fui depuis 2023. Plus récemment, le M23 soutenu par l'armée rwandaise est arrivé dans de nouvelles localités, dont Goma et Bukavu, une présence qui a provoqué de nouveaux mouvements de population. L'aide humanitaire déjà sous pression peine donc à suivre l'ampleur de la crise. Des appels se multiplient pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Un récit signé Christina Okello.
Le mouvement des déplacés se fait par vagues successives selon OCHA. Avant l'arrivée de M23, soutenue par le Rwanda, des milliers de déplacés des territoires de Masisi, Lubero et Rutshuru avaient trouvé refuge à Goma et Minova, deux localités où se sont concentrées des dizaines de milliers de personnes. Mais le démantèlement des camps après l'ultimatum du M23 a forcé de nombreux déplacés à retourner dans des zones où il n'y a plus d'infrastructures de base. Un retour contraint alors que les humanitaires eux-mêmes peinent à répondre à l'urgence touchée par le manque de ressources après les récents combats. Eugène Bion, porte-parole du HDR, alerte sur la situation.
Nous sommes préoccupés par l'approvisionnement dans le pays, car de nombreux entrepôts d'acteurs humanitaires ont été pillés pendant le conflit. Tout ce dont ces populations ont besoin doit transiter par le corridor humanitaire, c'est-à-dire l'aéroport et le port. Or, l'accès à ces infrastructures est actuellement très limité. Une fois que nous pourrons atteindre les populations déplacées, nous aurons impérativement besoin que ces approvisionnements entrent dans l'est du Congo pour leur venir en aide.
Sans accès, impossible d'évaluer combien de déplacés restent sans assistance. D'après OCHA, près de 300 000 personnes ont fui ces dernières semaines, un chiffre qui pourrait encore grimper si les combats se poursuivent.
Christina Okello. Et puis ce dimanche, l'armée soudanaise affirme avoir brisé le siège autour de la ville d'El Obeid dans le sud du pays. Le porte-parole de l'armée précise que les forces régulières ont réussi à rouvrir la route vers El Obeid et à faire la jonction avec des soldats à l'est de cette ville, chef-lieu de l'État du Kordofan du Nord. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo annonce ce dimanche la tenue des élections présidentielles et législatives le 30 novembre. La Cour suprême avait pourtant fixé cette échéance au 4 septembre. L'opposition estime qu'il doit quitter le pouvoir dès ce 27 février. Le projet de refonte fiscale porté par le président nigérien Bola Tinubu présenté au Sénat ce lundi, étape importante en vue de l'adoption de cette réforme ambitieuse qui a suscité initialement beaucoup de résistance, notamment dans les rangs des gouverneurs du nord du pays. Les précisions de Lisa Fabian.
C'est une victoire politique pour le président nigérian Bola Tinubu et son ambitieuse réforme fiscale. Un paquet qui comprend 4 projets de loi distincts et qui vise à simplifier la collecte des impôts dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Sauf que le projet transmis à l'Assemblée nationale début octobre a fait face aux résistances des gouverneurs du nord du Nigeria qui s'estimaient lésés par certaines dispositions. La réforme prévoit notamment des changements dans la répartition des recettes de la TVA. Le nouveau calcul ne convenait pas au gouverneur du Nord, car il avantagerait les régions qui produisent plus de richesses et qui consomment plus, comme l'État de Lagos, au détriment des régions du Nord du pays qui sont plus peuplées, mais aussi plus pauvres et moins industrialisées. Les gouverneurs n'appréciaient pas non plus que cette réforme soit portée par le président lui-même et non pas par l'administration fiscale. Ils ont finalement décidé d'apporter leur soutien à Bola Tinubu, même s'il s'oppose toujours à une proposition de forte augmentation de la TVA dans les prochaines années, vu le contexte économique déjà difficile au Nigeria.
Lisa Fabian et direction à Abidjan pour le clap de fin de la 10e édition du Festival d'humour de Côte d'Ivoire. Ce soir au Palais de la Culture de Trècheville, fin de l'événement avec notamment la traditionnelle battle. Reportage Benoît Almiras.
Pour cette 10e édition, la battle oppose les debout aux coulés, traduction, les riches contre les pauvres.
Bonsoir à tous les riches qui sont devant. Vous voyez, applaudissements raffinés. Maintenant, les pauvres, faites du bruit.
Sur la scène, deux clans de comédiens se moquent du rapport des uns et des autres à l'argent, à la religion ou encore aux animaux. De quoi faire rire Julie et Ignace qui sont venus se détendre en famille.
Ça me fait plaisir de raconter les comédiens et tout ça. Franchement, je les adore.
Plein d'émotions, de rire et puis de détente en tout cas, de détente. Ça nous permettra aussi de nous réchausser pour aller au travail demain encore.
Et parmi le clan des riches, il y a l'Ivoirien de Perpignan.
Pour une première fois dans ma vie, je joue le rôle de riche, même si en dehors de la scène, bon, ça bouge pas. Hein.
En coulisses, le comédien ne se lasse pas du festival.
J'adore la manière dont le Gondwana organise aussi ce festival-là, pour toujours garder ce beau sourire-là que les gens en retour nous donnent.
De Perpignan, qui donne rendez-vous à Abidjan, capitale du rire, 11e édition. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Abidjan, capitale du rire, un événement RFI. Sachez aussi que le prix RFI Talent du rire 2024 a été remis ce soir à l'humoriste camerounais Dr Kevin. Et pour être complet, vous pouvez également retrouver l'émission sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar et ses invités, Maman et le magnifique émission également.